9h, 10h, c'est arrivé demain.
François Claus sur Europe 1.
Bonjour à toutes et tous. À 3 jours du grand rituel de la fête du travail, les images forcément reviennent. 1er mai 2018, quand 1200 manifestants habillés de noir, casqués, s'emparent et capturent la manif syndicale pour affronter et détruire. Que s'est-il passé depuis un an autour des Black Blocs? Y aura-t-il, à défaut de convergence, une connivence d'intérêts? Comment la puissance publique s'apprête à affronter le triple front jaune, rouge, noir? Sylvain Boulouk, historien, spécialiste de la gauche radicale, répond ce matin sur Europe 1 à toutes nos interrogations. C'est le livre qu'Emmanuel Macron a peut-être lu, ou n'en aurait-il eu que les bonnes feuilles. C'est le livre qui va traverser tout le débat de l'acte 2 du quinquennat. Son titre nous dit tout, se sentir mal dans une France qui va bien. Il est signé du grand démographe Hervé Le Bras. Il brise les tabous ce matin sur Europe 1. Il sera l'invité vedette du festival de la bande dessinée d'Aix-en-Provence le week-end prochain, dans la ligne claire, sombre et très engagée de l'iranienne Marjane Satrapi ou du syrien Riyad Satouf. Le libanais Mazen Kerbaj publie Politique, quand la BD devient résistance. Mazen Kerbaj, ce matin, décrypte ses planches sur Europe 1. Vous aurez jusqu'au 11 août prochain, dans le temple parisien de la musique dédié à Beethoven ou à Brahms, voilà l'électro qui envahit la Philharmonie de Paris pour une exposition sensation. 50 ans de musique électro, de Kraftwerk à Daft Punk, le commissaire général et la pianiste Vanessa Wagner vont vous faire pénétrer dans cet univers musical, étrange peut-être pour vous, mais qui exprime si bien notre temps.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec François Claus sur Europe 1.
Bonjour Sylvain Boulouk.
Bonjour.
Il y a 362 jours exactement, vous étiez sur tous les plateaux télé, vous, le grand spécialiste de la gauche radicale, pour expliquer à des Français ébahis qui étaient ces 1200 militants qui avaient capturé la manif syndicale du 1er mai, vêtus de noir, casqués, qui avaient détruit et affronté les forces de l'ordre. On découvrait alors les Black Blocs, qui était un mouvement qui pourtant existait depuis au moins une dizaine d'années, depuis Detroit, Seattle et Gênes. Que s'est-il passé, Sylvain Boulouk, depuis un an? Est-ce qu'on les connaît mieux? Est-ce qu'on les maîtrise mieux? Est-ce qu'ils sont plus nombreux?
Plus nombreux, incontestablement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des différentes manifestations gilets jaunes depuis le mois de novembre dernier, il y a ce phénomène qu'on appelle Black Bloc qui s'est renforcé, amplifié et dont le nombre est de plus en plus conséquent. Alors en fait, il faut corriger une petite chose, c'est-à-dire qu'il y avait 1200 personnes qui étaient vêtues de noir qui affrontaient la police, mais autour il y avait environ 15 000 personnes qu'on appelle le cortège de tête qui protégeaient ces Black Blocs, qui étaient en empathie avec ces Black Blocs, qui étaient au devant, donc cortège de tête, qui étaient au devant de la manifestation pour rompre avec l'agencement traditionnel des manifestations qui fait que un certain nombre de personnes considèrent que les manifestations telles qu'elles existent, si elles ne sont pas émaillées d'incidents, sont enfouies dans un silence. Et c'est ce phénomène de rupture par la violence qu'on retrouve avec le phénomène gilet jaune depuis le mois de, depuis la fin du mois de novembre.
Vous êtes en train de nous dire qu'il y aurait là une forme de porosité aujourd'hui entre ce mouvement qui vit dans l'ombre, qui communique dans le darknet, qui s'organise pour aller casser, et la manif des gilets jaunes, où une forme de violence serait en train d'apparaître.
Il y a des porosités qui existent. Les violences avec les gilets jaunes sont inhérentes au phénomène gilets jaunes depuis le début. C'est-à-dire que depuis le 17 novembre 2018, il y a eu des violences plus ou moins importantes, beaucoup plus importantes les 24, 1er décembre et 8 décembre, mais il y a eu des phénomènes de violence qui ont été inhérents au phénomène gilets jaunes. Il y a, alors pas des convergences des luttes, mais il y a en tous les cas au minimum des intérêts qui peuvent être similaires entre les différents mouvements sociaux actuels.
Quand vous dites intérêt, vous pensez à quoi? Vous dites par exemple que le fait qu'il y ait de la violence dans les manifestations de gilets jaunes leur permet par exemple de capturer l'espace médiatique et donc politique.
Il y a une capture de l'espace médiatique, première chose. Il y a, deuxième chose, un phénomène de revendication qui peuvent être des revendications sociales. Alors pas chez tous les gilets jaunes, pour certains c'est plutôt antifiscal, mais pour d'autres c'est plutôt des revendications sociales. Donc il y a un certain nombre de revendications qui peuvent être communes à la fois au Black Bloc et aux gilets jaunes et aux cortèges syndicaux, puisque qu'il y a dans toute cette mouvance, enfin dans toutes ces mouvances, un certain nombre de thèmes qui sont communs, et puis une dimension insurrectionnelle ou émeutière, on va dire, qui existe, mais ça qui est une vieille tradition française qui remonte, alors, si on veut, pratiquement 89, voire même avant, mais c'est-à-dire que la tradition de l'émeute et de l'affrontement avec les forces de l'ordre en France, c'est quelque chose qui est constant depuis au moins la Révolution française.
Alors, on avait senti, il y a un an, les forces de l'ordre, le service d'ordre, le SO, comme on dit, des grandes manifs syndicales, débordés, ou alors vous évoquiez la thèse un peu complice en ce qui concerne le syndicat.
Alors, pas les services d'ordre des syndicats, des centrales syndicales.
Certains manifestants.
Mais tout à entre fait le cortège de tête, donc la tête de la manifestation et les Black Blocs, oui, il y a une connivence qui existe. Comme alors, entre les Gilets jaunes et les Black Blocs aujourd'hui, il y a une connivence qui existe.
Est-ce qu'aujourd'hui on est plus armé pour à la fois, j'allais dire, sur le terrain, mais peut-être en amont, infiltrer ce mouvement qu'on a peut-être un peu trop négligé dans la décennie où il a commencé à s'exprimer, où il est arrivé à Paris sur le
Alors,
cours de service.
Là, pour le coup, côté aspect des forces de l'ordre, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, donc il est très difficile de répondre. La communication.
Les spécialistes du sujet évoquent de nouvelles techniques d'intervention pour essayer de protéger la manifestation.
On voit de nouvelles techniques policières d'intervention avec des arrestations ciblées. Après, il y a aussi ce qu'il ne faut pas négliger, une guerre de la communication. Je vais prendre un exemple de ce qui s'est passé il y a une semaine, place de la République, où en fait, on a vu un affrontement ou une intervention policière très musclée avec l'arrestation de Gaspard Lenz, par exemple. Mais ce qu'on oublie de mentionner, c'est qu'il y avait toute une partie de la manifestation qui était hors champ, hors caméra, puisque les forces de l'ordre avaient scindé ou tronçonné, entre guillemets, la manifestation en plusieurs morceaux. Ce qui fait que toute une partie des manifestants n'ont pas pu arriver au point définitif. Et à partir du moment où vous tronçonnez une manifestation en plusieurs morceaux, effectivement, la puissance collective de ce qu'on appelle le Black Bloc, donc la force noir, enfin le bloc noir a plus de difficultés à s'exprimer puisqu'ils ne sont pas rassemblés et donc ce bloc n'est plus un bloc mais des individus épars. Et effectivement, ça peut être tactique policière.
Et cette logique-là, du coup, s'exprime avec évidemment
moins ils sont nombreux, plus ils ont des difficultés à s'exprimer.
Alors, il y a eu 200 arrestations le 1er mai 2018. Est-ce qu'on, justement, on peut décrypter un peu le profil de ces militants radicaux?
Alors, c'est extrêmement hétérogène. C'est mixte. D'abord, il y a pratiquement maintenant autant de femmes que d'hommes qui participent à ces manifestations, enfin cette formation. Ensuite, deuxièmement, c'est transgénérationnel, c'est-à-dire que vous avez des vingtenaires, trentenaires, quarantenaires, enfin, donc de tous les âges, on va dire. Et c'est socialement extrêmement divers, c'est-à-dire qu'au départ, on savait que les premières formations étaient plutôt très, très, très diplômées. Aujourd'hui, on a des profils sociaux qui sont extrêmement variés, qui vont de l'ouvrier aux professions intellectuelles supérieures.
Ce qui les unit, c'est un rejet du système.
C'est l'anticapitalisme, puisqu'on a aussi des appartenances politiques qui sont extrêmement variées, qui recouvrent toutes les franges de la gauche anticapitaliste. Ce qui les unit, c'est l'anticapitalisme. Ce qui les unit, c'est la détestation de l'ordre social actuel, et donc de s'en prendre symboliquement à un certain nombre de représentations de cet ordre social actuel, que ce soit les grands magasins de luxe ou les forces de l'ordre qui sont les garantes de l'ordre social. Mais ce qu'il y a derrière, c'est réellement un anticapitalisme et une nouvelle forme, une nouvelle manifestation de l'anticapitalisme qui existait, il ne faut pas l'oublier, dans les années 70, qui n'était pas exprimé exactement de la même manière, mais qui existait déjà dans les années 70.
L'expression de cette nouvelle violence est peut-être un signe également de notre époque, une expression peut-être plus contemporaine. Dernière question, Sylvain Boulouk. On a été étonné d'entendre le ministre de l'Intérieur dire « on a des messages très clairs qu'il y a des menaces de violence ». Par principe, les Black Blocs, on ne sait pas où ils vont intervenir.
On ne sait pas où ils vont intervenir. Ils ne vont pas prévenir à l'avance de leur intervention.
Ils communiquent sur ce qu'on appelle le Darknet.
Il y a des communiqués officiels qui montrent qu'il y aura peut-être des affrontements, mais ce n'est absolument pas sûr qu'il y ait ces affrontements. Tout est une question de conditions. Est-ce que les conditions vont être réunies ou ne seront-elles pas réunies ?
Merci beaucoup Sylvain Boulouk ce matin d'avoir répondu à toutes nos interrogations à 3 jours de cette manifestation du 1er mai.
Europe 1.
Dans un instant, nous serons avec l'homme qui a écrit le livre qui va briser des tabous et vraisemblablement irradier tout le débat politique de l'acte 2 du quinquennat. Monsieur Hervé Lebras, le grand démographe qui signe se sentir mal dans une France qui va bien.
Europe 1.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Europe 1.
C'est arrivé demain continue jusqu'à 10h avec vous, François Kloss.
Bonjour Hervé Lebras.
Bonjour.
Se sentir mal dans une France qui va bien, la société paradoxale. Alors vous, Hervé Lebras, qui étudiez des chiffres, des courbes, qui nous apportez vos analyses avec pertinence depuis maintenant 30 ans sur la démographie et l'évolution de la société française, j'ai presque senti une forme de désarroi qui apparaît à la fois dans le titre, dans le paradoxe. Est-ce qu'on peut réellement mesurer ce que c'est se sentir mal? Est-ce qu'on peut réellement mesurer ce qu'est un pays qui va bien?
Oui, je pense, c'est d'ailleurs au fond l'objet de la confrontation des deux. Alors, mesurer, se sentir mal, j'ai beaucoup utilisé des enquêtes qui s'appellent les eurobaromètres, qui sont passées dans les 28 pays de l'Union européenne et qui posent un certain nombre de questions d'opinion. Est-ce que vous êtes content de votre situation, tout bêtement, mais est-ce que vous avez peur de la mondialisation? Il y a un très grand nombre de questions. Et ce qui est frappant, c'est que dans toutes ces questions, pratiquement, la France est le pays le plus pessimiste. Je vais vous donner juste un exemple. Êtes-vous content de la protection sociale de votre pays? Les Français sont ceux qui sont les moins contents de tous, et de loin. 35% seulement sont contents. 90% des Danois sont contents. 60% des Bulgares sont contents. Or, la France est le pays qui consacre la plus forte partie de son budget à la protection sociale. Donc, il y a un vrai paradoxe. Alors, de l'autre côté, si vous voulez, non pas du côté de l'opinion, mais du côté, on ne peut pas dire de la réalité, mais au moins des faits, du côté empirique, la France va plutôt bien. Elle est plutôt, parmi les 28 pays, quel que soit le critère pratiquement que l'on prend, le pays où les choses vont, elle n'est pas en tête, mais pas pour le mieux, mais quand même vont pratiquement bien.
Alors, on va voir avec vous, parce que cette phrase, évidemment, dans le contexte social qui est le nôtre depuis le 17 novembre, reçoit un certain écho, jugé parfois comme une provocation par ceux qui trouvent que la France va mal, justement. Mais pour illustrer le paradoxe que vous évoquez à l'instant, il y a deux chiffres. 94% des Français sont tout à fait heureux de vivre en France, dites-vous. La moyenne européenne est un peu au-dessus de 90%, mais on est en tête de ce chiffre-là. Et dans le même temps, lorsqu'on demande aux Français l'avenir, la peur de l'avenir, 58% des Français n'ont pas confiance en l'avenir. C'est nettement moins que la moyenne européenne, 69%. J'ai le sentiment que ces deux chiffres, heureux d'être en France mais peur de l'avenir, résument votre thèse.
Oui, et surtout, ils donnent une piste, c'est-à-dire qu'il y a une dissociation entre la vie publique et la vie privée. C'est comme si les Français, mécontents de leur vie publique, et souvent mécontents à tort, comme je tente de le montrer dans le livre, se réfugiaient dans la vie privée, se réfugiaient dans le cocon familial et aussi dans tout ce qui entoure la famille et les proches. Et donc c'est cette dissociation qui crée, je crois, ce paradoxe entre une situation française qui est plutôt bonne et un pessimisme qui est très important.
Alors on va essayer de comprendre les sources et les racines de ce pessimisme avec vous, Hervé Lebras. Quand vous dites « la France va bien », vous citiez la redistribution sociale, mais on est étonné dans votre livre, en tout cas dans toute la première partie, de voir effectivement qu'on est dans une forme de paradis. J'exagère en employant le mot paradis, mais la France va bien. Vous pouvez nous illustrer comment vous arrivez à cette conclusion?
Oui, alors ce qu'il faut dire aussi, ce n'est pas, comment dire, va bien dans l'absolu, parce que dans l'absolu, les choses ne vont jamais très bien. On peut toujours faire mieux. Ce que je fais, c'est de comparer avec ce qu'il y avait avant, avant proche ou quelquefois avant un peu plus lointain, dans les années 90, et puis avec les autres pays, c'est-à-dire qu'est-ce qui est possible. Et de ce point de vue-là, la France va bien. Prenons le cas de la pauvreté. C'est un des pays où l'indice de pauvreté, la proportion de personnes sous le seuil de pauvreté, est la plus faible. Il reste des pauvres, il faut vraiment s'en soucier, il y a des mesures à faire, mais globalement, on est un pays, de ce point de vue-là, qui s'en occupe vraiment.
Alors, autre paradoxe, on croyait que la France des campagnes était en train de souffrir, aller très mal, c'est ce qui s'exprime sur les ronds-points. Vous nous dites, vous, si on regarde les notions de revenus, les notions de logement, finalement, on souffre plus dans les grandes agglomérations que dans les campagnes.
Oui, par exemple, la pauvreté est plus forte dans les grandes agglomérations, la proportion de familles monoparentales, donc les difficultés familiales, y sont plus fortes. Et quant au chômage ou bien la proportion de jeunes sans diplôme, qui sont deux paramètres importants, ils sont un tout petit peu plus forts dans les grandes villes, un tout petit peu plus faibles au voisinage immédiat des grandes villes. Et quand on va loin des grandes villes, c'est dans la moyenne et même un peu au-dessous de la moyenne. Donc, quand on est loin des grandes villes, c'est pas du tout que les choses vont mal, mais c'est qu'on est loin, par exemple, il y a très peu de cadres supérieurs, il n'y a pas de pauvres plus nombreux, même ils sont plutôt moins nombreux, mais il n'y a pas de riches, je dirais d'une certaine manière brutalement, et donc il y a un sentiment, effectivement, d'être délaissé, et puis il y a un autre problème qui a déclenché tout, c'est la question de la voiture.
Cette voiture, Hervé Lebras, que vous évoquez, qui cristallise et finalement résume toute la crise que nous traversons, ce que je vous propose, on s'arrête une seconde sur l'aire de repos, et on va reprendre dans quelques instants.
Europe 1, c'est arrivé demain. Europe 1.
Jusqu'à 10h, vous retrouvez C'est arrivé demain avec François Claus sur Europe 1.
Vous évoquiez la voiture, Hervé Lebras, j'ai profité de la pause publicitaire pour me replonger dans mon petit Barthes illustré. Voilà ce qu'écrivait Roland Barthes, écoutez bien, en 1900, au milieu des années 50, je le cite, « Je crois que l'automobile est aujourd'hui l'équivalent des grandes cathédrales, une création d'époque, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement mythique. » Ça, Barthes écrivait dans les années 50, on se dit que Macron aurait peut-être dû relire son petit Barthes, car c'est clair, finalement, cette voiture, ce moteur diesel, c'est lui qui a mis le feu aux poudres, Hervé Lebras.
Oui, ça c'est très clair dès le début, mais parce que dans les grandes villes, on n'a pas ce souci de la voiture, il y a des transports en commun, et puis les choses sont relativement proches. Et ce qui s'est produit, ça c'était par étapes, c'est un... D'ailleurs, un économiste l'a fort bien vu dès le début, Christian Saint-Étienne. Il a dit, voilà, on a d'abord mis la limite des 80 km/h. Et puis, juste après, on a attaqué le diesel. Or, le diesel est très fréquent dans les campagnes parce que la consommation est moins chère quand on a, jusqu'à une époque récente, quand on roulait en diesel. Et puis ensuite, on a fait savoir qu'on allait augmenter et resserrer les contrôles techniques. Et puis là-dessus, la taxe carbone vient. Donc c'est, comme je l'ai écrit dans un papier, j'ai dit, c'est la petite goutte qui a fait déborder un gros vase. Et on ne s'est pas rendu compte au gouvernement et dans la haute administration que la voiture est une condition essentielle du maintien des personnes dans le périurbain, de leur vie aussi, dans les zones qui sont loin, qu'on appelle les zones de la diagonale du vide, qui sont loin, c'est jamais très très loin, mais qui sont à, disons, plus d'un quart d'heure en voiture d'un ensemble de services. Et donc, ces personnes, c'est pas une question simplement de pouvoir d'achat, ces personnes se sont senties attaquées dans ce qui était l'équilibre de leur vie. C'est privé de voiture, ces personnes ne peuvent pas rester où elles sont. Et on n'a pas compris que l'importance, au fond, de cette question est... Dans un autre travail, j'ai dit, au fond, la sociologie s'est très peu intéressée à la voiture, pas plus qu'à la machine à laver. La sociologie s'est plus intéressée aux classes sociales, aux revenus, à des questions politiques. Et puis la voiture, bon, ben, c'est un moyen comme un autre. Or, ce n'est pas un moyen comme un autre. Ce n'est pas simplement un moyen, au fond, de gérer sa vie. C'est aussi un moyen de sociabilité. C'est-à-dire, c'est par là qu'on peut aller rencontrer ses amis, visiter des gens de sa famille. Et c'est ça qui était attaqué.
Et c'est aujourd'hui clairement l'une des premières pistes que vous évoquez pour illustrer ce paradoxe français. On est dans un temps bloqué, dites-vous. On est dans un temps bloqué par rapport à une époque où l'espoir était là de progresser socialement et de la progression d'une forme de vie que la voiture notamment illustre. Elle est ressentie comme impossible ou plus possible.
Oui, alors c'est beaucoup plus large que la voiture. Ça touche à la question de l'ascension sociale et du rapprochement des classes sociales. À peu près jusqu'en 2010, le revenu moyen des ouvriers s'est rapproché du revenu moyen des cadres. L'écart était de un peu plus de 1 à 2 dans les années 90 et il est tombé de 1 à 1,75. Et puis en 2010, tout s'est bloqué. Donc, il y avait une perspective qui était ouverte, les choses allaient de mieux en mieux. Et puis tout s'est bloqué. Tout s'est bloqué parce que le niveau de vie n'a pu progresser. Il n'a pas diminué, mais il n'a pu progresser. Donc quelque part, les personnes qui, au fond, attendaient que ça se poursuive, et c'était un grand nombre de Français étaient dans ce cas, se sont retrouvés bloqués sur place.
Pour eux-mêmes ou pour leurs enfants?
Et pour leurs enfants encore plus, parce que dans le même temps, disons, alors un peu plus longtemps, depuis une trentaine d'années, l'ascension sociale est de plus en plus difficile. La société est coupée en deux quand on est dans la catégorie sociale populaire, mettons employé, ouvrier. On y reste maintenant. Les enfants progressent, ils passent de manœuvre à ouvrier professionnel, mais ils ne montent pas beaucoup plus haut. Et puis inversement, quand on est dans la classe, je ne dirais pas supérieure, ça commence aux classes moyennes, ce qu'on appelle les professions intermédiaires, on progresse assez lentement et si on est en haut, on y reste. Et puis surtout, il y a ce blocage social et ce blocage social, il est dès le début, il est dès les classes du primaire, les enquêtes qu'on appelle PISA, qui étudient à travers tous les pays développés quel est le niveau d'éducation, montrent que la France est pratiquement le pays où les différences de réussite selon le milieu social sont les plus importantes dès la classe primaire. Donc ça se fabrique de long terme. Et donc ça veut dire que si on veut restaurer de l'optimisme en France, le travail à faire est un travail de longue durée, un travail en amont, à commencer par l'école et presque même par la maternelle.
S'il y a une conséquence terrible, il y a ce chiffre également, qu'est-ce que vous avez en commun avec vos concitoyens ? En France, on est autour d'un tiers, on va dire, des Français qui estiment avoir quelque chose en commun avec leurs compatriotes. On est très en deçà des autres pays européens. Il n'y a plus de projet commun en France.
Oui, il n'y a plus de projet commun, mais surtout dans le chiffre que vous dites, il n'y a plus, ou disons il y a moins, de confiance commune. Et à nouveau, on retombe sur ce qu'on a évoqué au début, c'est-à-dire un repli sur ce qui est le plus proche. Et donc, ce qui est le plus proche, c'est assez largement la famille. Et souvent,
ce
on me pose la question.
C'est quand même un paradoxe, Hervé Lebras, là, que vous soulevez, parce que peu de pays peuvent, comme après le Bataclan, comme après une victoire en Coupe du Monde, comme après l'incendie de Notre-Dame, générer autant de puissance collective. Mais on a le sentiment, en lisant votre livre, qu'elle s'exprime de manière sporadique et qu'au quotidien, cette puissance collective est aujourd'hui étiolée.
Oui, vous avez raison. Il y a comme, au fond, de temps en temps, la pression est peut-être trop forte et il y a cette puissance collective qui s'exprime, mais elle s'exprime sans lendemain. On l'espérait, par exemple, qu'avec la Coupe du Monde de football, elle allait se renouveler ce qui s'était produit, c'était en 98. Non, ça a été une flambée de bois vert. Même chose après les attentats contre Charlie, où il y a eu une mobilisation formidable, mais ça n'a rien changé. Donc c'est pour ça que le malaise est profond, il faut s'attaquer à des racines profondes de ce malaise. Et de temps en temps, au fond, dans ces moments d'une certaine ferveur populaire, s'exprime peut-être cette sorte de nostalgie, ce sentiment que on n'arrive plus à avoir un vivre ensemble qui soit assez large. Le vivre ensemble local reste quand même, et familial, reste quand même très important en France. Et c'est un
ce
des
que
paradoxes.
Vous appelez le bonheur privé, le bonheur par rapport à ce malheur public, ou en tout cas ce pessimisme public. Dernière question, Hervé Lebras. C'est un livre pessimiste ou optimiste que vous écrivez ? Le constat que vous faites doit nous faire rêver à une France de demain et pas seulement à une France d'hier ?
Il y a encore, comme dans tous les pays, des gens pauvres, des gens malheureux, donc il y a un énorme travail bien sûr à faire, mais on est déjà par rapport aux autres pays dans le monde et par rapport à ce qu'on était il y a 10 ou 20 ou 30 ans, très en avance. Et puis regardons ce qui se passe autour de nous, à la manière dont l'État-providence par exemple est détruit dans des pays comme les États-Unis ou bien même d'ailleurs plus proche de nous en Angleterre. Donc essayons aussi de protéger ce qui a été un très grand acquis des démocraties et que là, à force de le vilipender comme on le fait, on est en train, je pense, d'abîmer.
Merci beaucoup Hervé Lebras. Ça s'appelle « Se sentir mal dans une France qui va bien ». La société paradoxale, publiée aux éditions de l'Aube. Lecture à la fois déprimante par moments, mais régénérante aussi, on l'a compris, pour tenter de lutter contre ce pessimisme ambiant si français.
Europe 1.
Dans un instant, on reste dans les livres, mais les livres où il y a des images, c'est aussi la politique, une forme de résistance. Mazen Kerbage, le dessinateur libanais, publie Politique. Nous le retrouvons dans un instant.
Europe 1, 9h, 10h, c'est arrivé demain.
Europe 1. De 9h à 10h, vous êtes avec François Claus pour C'est arrivé demain sur Europe 1.
Bonjour Mazen Kerbage.
Bonjour.
Vous publiez un album qui s'appelle Politique. Vous êtes dessinateur, vous êtes militant. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, on pourrait dire que c'est dans la ligne de Marjane Satrapi, dans la lignée également de Riyad Satouf. Vous êtes un dessinateur caricaturiste. Vous avez également d'autres activités, on en parlera peut-être. Mais être dessinateur caricaturiste, auteur de bande dessinée au Liban, ça a une dimension particulière. Le dessin est un acte, j'allais dire, quasi militant.
Oui et non. En même temps, je ne sais rien faire d'autre. Donc pour moi, c'est un acte très naturel. Sinon, je me dirais plutôt dans la lignée des Jean-Marc Rézère et du Harakiri bête et méchant des années 70. J'ai grandi en lisant ce genre de choses à Beyrouth. Et je crois que le dessin, effectivement, peut être une sorte d'arme, sinon pour changer les choses, au moins pour se défouler soi-même.
Ou pour éveiller un certain nombre de consciences, le dessin qui fait la couverture de ce très bel album publié chez Actes Sud BD Arte Édition résume tout. En couverture, on a un homme barbu qui dit « je pense », on retourne le livre, la tête est découpée, donc je ne suis plus. C'est aussi assez noir, cynique, acide par moments, c'est à l'image de ce monde arabe dans lequel vous viviez. Celui de la guerre qui est passée, de la guerre
absolument,
qui va peut-être venir.
Absolument, et puis c'est une sorte de censure qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, je m'en moque ou je m'en désole dans une autre BD, dans le livre. C'est à savoir qu'au lieu de censurer, on vous laisse, on vous dit une fois, deux fois, genre arrête de faire le malin, et puis on assassine plutôt. Donc, ça a été toujours un truc assez spécial, enfin un truc dans lequel on a grandi, qu'on sait, on connaît les risques, mais depuis Charlie Hebdo, ce truc s'est exporté, si j'ose dire. Donc, en France, on sait ce que c'est aujourd'hui, cette censure radicale, si j'ose dire.
Vous avez cherché systématiquement à jouer entre ce qu'on pouvait dire, ne pas dire, mais dire quand même ce qu'on pense.
Oui, parce qu'au Liban, donc, il y a une censure énorme, mais en même temps, je vais dire une énormité qui va me valoir pas beaucoup d'amis, mais la censure a du bon parfois, dans le sens où ça nous oblige vraiment à réfléchir comment dire les choses et comment détourner, comment trouver la meilleure façon de faire passer des choses, subtilement si j'ose dire. Donc on n'est plus vraiment dans le truc direct, mais on essaie de passer en dessous du radar autant que possible. Donc je me flatte de ne jamais avoir été censuré au Liban que par des rédacteurs en chef. Donc tous les rédacteurs en chef avec qui j'ai travaillé m'ont censuré à un moment ou un autre, mais jamais la censure officielle. Donc j'ai vraiment réussi à passer... il n'y a qu'à feuilleter le livre, des trucs vraiment énormes sur tous les tabous, que ce soit les drogues, les religions, le sexe, tout ça, la politique, bien sûr. Tout ça comme une lettre à la poste.
Et vous parliez du prix parfois très cher à payer pour un dessin. Vous avez fait un très bel album qui rendait hommage à un grand journaliste libanais, Samir Kassir, pour qui vous avez travaillé, qui a été assassiné, attentat à la bombe. On est dans les années d'occupation syrienne ou post-syrienne, des années 2000 du Liban. Vous avez fait un très bel album qui lui rend hommage également.
Absolument, c'était... je ne l'ai pas fait vraiment un album, c'était vraiment mon journal pendant la semaine où il a été assassiné. Donc ça s'appelle une semaine sans la voix de Samir. Samir a été une sorte de, je ne vais pas dire un mentor, mais c'est quand même avec lui que j'ai fait mes premières armes. Donc quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à dessiner dans la revue qu'il avait lancée, l'Orient Express. Et il a toujours été, il était très jeune déjà et il a toujours été très proche. Je lui en veux beaucoup d'être mort pour ses idées.
Vous lui en voulez beaucoup ?
Oui, je suis plutôt du côté de Brassens, donc mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Je lui en veux beaucoup parce qu'on a besoin de gens comme lui. C'était un historien, un écrivain, un homme, un penseur magnifique. Et mourir pour des prunes, si j'ose dire, ça vaut pas la peine, surtout dans nos pays. Quoi.
C'était le 2 juin 2005 et une bombe avait été placée sous sa voiture en plein centre de Beyrouth. Vous serez Mazen Kerbaj à Aix vendredi prochain dans le cadre du festival de la BD d'Aix, au pays, vous le disiez, de Charlie. Donc pour vous, j'imagine que ce n'est pas anodin d'arriver aujourd'hui en France, où la bande dessinée, on le voit avec Aix, mais on le voit à Angoulême, on le voit à Saint-Malo. Je vous donne un chiffre, 44 millions d'albums vendus l'année dernière, 510 millions d'euros générés par ce roman graphique. À l'heure où on ne lit plus, on lit des bandes dessinées, on se plonge dans des histoires très variées, parfois drôles, parfois très profondes. C'est réjouissant que cette activité soit aussi vivace.
Oui, sûrement, mais en même temps, je me demande lesquels sont les albums qui vendent autant de millions. Mais c'est vrai
le
que
le manga est très présent, mais ouais. J'allais dire des artistes, parce que vous êtes des artistes comme vous, trouvent leur public.
C'est vrai. Et puis la bande dessinée n'a plus aujourd'hui à faire ses preuves. Ce n'est plus les illustrés de quand on était gamin qui sont qui apprennent un mauvais français et qui sont mauvais pour les enfants, etc. Donc on est vraiment dans, dans une reconnaissance qui n'est plus à faire aujourd'hui.
Et qui est extrêmement variée. Hein. Si je vous donne les invités avec qui vous serez au Festival d'Aix, il y a un album qui raconte la résistance du ghetto de Varsovie. Puis il y a aussi les facéties d'Émile Lamb. C'est un domaine extrêmement varié. Quel est le message que vous allez faire passer à Aix, Mazen Kerbaj, dans une semaine?
J'ai aucune idée. Je suis toujours dans l'improvisation pure et puis je réagis.
Vous allez venir avec votre album?
Absolument, absolument. C'est un album qui a pris 10 ans à faire. C'est des pages qui ont été publiées ici et là dans la presse libanaise et internationale. Et puis il a été repensé entièrement pendant 3-4 mois. Il a été quasiment redessiné entièrement pour que ça fasse un album. Et donc je vais aller le défendre, si j'ose dire.
C'est un très bel album et c'est peut-être aussi le succès de la bande dessinée. C'est très très bien mis en scène, très très bien édité. Lisez Politique de Mazen Kerbaj chez Actes Sud BD et allez à Aix vendredi prochain écouter Mazen Kerbaj parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour parler avec vous. Mais c'était un plaisir de vous rencontrer, de partager avec les auditeurs. À bientôt.
À bientôt.
Dans un instant, l'électro.
Europe 1. La suite de cette arrivée demain, c'est jusqu'à 10h avec vous, François Kloss.
Voici donc le son qui a envahi la prestigieuse philharmonie de Paris et vous avez jusqu'au 11 août prochain pour vous y plonger. Bonjour Jean-Yves Leloup.
Bonjour.
C'est vous le responsable ou c'est grâce à vous qu'on c'est peut vous. Se plonger dans cet univers, celui de la musique électro. Il aura donc fallu, Jean-Yves Leloup, attendre un demi-siècle après la sortie de l'album culte du groupe allemand Kraftwerk pour que l'électro fasse son entrée au musée.
Au musée, disons qu'il y a le musée de la musique qui est à la Cité de la musique et puis toutes ces expositions temporaires dans l'espace d'expo de la Philharmonie qui se consacrent souvent aux cultures populaires, pas seulement mais aussi aux cultures populaires. Et finalement, dans cette exposition, on évoque un peu plus précisément ce qu'on a appelé la house et la techno qu'on désigne maintenant sous le thème un peu générique de électro, que tout le monde a entendu parler un jour ou l'autre. Donc c'est l'électro et la culture des DJ qui n'est pas vraiment mis dans un musée mais dans une exposition beaucoup plus visuelle, sensorielle, immersive qu'on pourrait le croire. On est très très loin du musée. La plupart des expositions culturelles et consacrées à la culture pop aujourd'hui,
quand
ont
je
cet
disais musée,
très,
c'était pas avec l'idée de quelque chose de poussiéreux, mais que c'est réellement un courant musical, un courant sociétal que cette musique électro.
La musique électronique, déjà, les premiers instruments, vous savez, ils arrivent à la fin du 19e siècle. Vous avez déjà une riche histoire plutôt savante après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez ces musiques un peu planantes, celles de Jean-Michel Jarre et d'autres dans les années 70. Et puis, vous avez cette révolution de ce qu'on a appelé la dance music électronique qui arrive, disons, dans la seconde moitié des années 80. Elle a maintenant plus de 30 ans d'histoire. Elle rayonne dans tous les pays du monde. Elle est présente aussi en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique et bien sûr dans la plupart des pays occidentaux.
Et c'est ce courant évidemment dans lequel on se plonge. C'est une exposition, on va essayer de vous en donner les sensations parce que c'est également très, très physique comme musique. Heureux d'accueillir dans ce studio Vanessa Wagner. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été premier prix du conservatoire à l'âge de 17 ans. Vous avez été la révélation soliste en 99 aux Victoires de la Musique. Vous êtes donc pianiste, classique, et pourtant la musique électro vous fascine, vous intéresse. C'est dire que c'est Jean-Sébastien Bach qui a inventé l'électro.
Non, mais c'est vrai que c'est deux mondes qu'on dit éloignés, voire antinomiques. Et quand j'ai commencé à écouter de la musique électronique au tout début des années 90, j'ai été très incomprise dans mon milieu, au point que quand j'ai commencé un petit peu à en parler, parce que j'étais assez euphorique et que j'aimais vraiment ça, j'ai été très pointue dans mon approche. Et on m'a clairement fait comprendre dans mon milieu qu'il fallait mieux que je me taise à ce sujet parce que ça me portait plutôt préjudice. Enfin voilà, ça a été.
Et finalement, vous avez persisté et vous aviez raison. Ça. On en parlera avec votre dernier album Inland qui est sorti justement hier. On est au cœur de l'actualité. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, formé classiquement la musique dans cette énergie électro que vous avez découverte ?
Alors au tout début, je m'y suis intéressée parce que j'ai découvert le monde de la fête qui était quand même dans les années 90 pour moi déjà une découverte, une révélation, tout ce côté très très festif de communion autour de la musique, vraiment c'était il y a des gens qui font par ça des fois presque des rituels chamaniques, mais il y avait vraiment quelque chose de très très beau et de très très heureux que j'ai adoré. Et puis ensuite je me suis intéressée beaucoup plus aux textures sonores qui sont, et on le voit aussi avec cette exposition, il y a des passerelles évidentes entre ce qu'on appelle la musique minimaliste et la musique électronique, il y a entre les recherches du GRM et de tout le mouvement de musique concrète, les Pierre-Henri, Schaeffer et tout ça, avec des hautecres, avec des gens vraiment qui vont dans une derrière le mot électro ou techno il y a multitude de courants. Moi j'ai adoré aussi la musique ambiante qui est très très proche de quelque chose d'hyper contemplatif, méditatif, intérieur, qui est loin des paillettes et autres. Donc voilà, c'est un courant à part entière, et le voir aujourd'hui accéder dans cette grande philharmonie merveilleuse qui a été quand même inaugurée par Pierre Boulez, qui n'était pas, je pense, le plus grand défenseur de la musique électro. C'était beau, c'était émouvant. Il y avait toute la scène. On était tous très, très heureux. Et moi, y compris, parce que, encore une fois, on part de très loin.
Et ça validait finalement vos choix que vous étiez à l'époque un peu seul à assumer, à revendiquer. Jean-Yves Leloup, ce qui est intéressant dans cette exposition de la Villette, c'est qu'au-delà de la chronologie, de l'histoire des différents courants de la musique électro, vous nous plongez dans un monde qui est aussi celui d'une culture. On voit les liens avec les autres disciplines artistiques, notamment.
Oui, tout à fait. C'est une exposition qui ne s'inspire pas de l'histoire ou d'une histoire didactique de ces courants musicaux, mais qui a voulu mettre en valeur cette culture à travers le regard de photographes, de vidéastes, d'artistes contemporains, d'artistes, disons, numériques, comme les 1024 architectures, qui sont à la fois les scénographes de l'expo et qui font une magnifique installation qui met en volume et en lumière la bande-son.
Oui, c'est avec des LED, c'est une salle que je vous conseille, ouais, si vous devez aller du côté de la Philharmonie. Jean-Yves Leloup, quand on dit qu'une musique ressemble à son époque, on a eu effectivement le rock des années 60, 70, qui correspond à une certaine utopie de ces années-là. On a eu le punk et sa rage dans les années de crise. Comment est-ce que vous qualifieriez cette musique électro dans le monde qui nous entoure aujourd'hui?
En fait, il y a toujours eu des musiques de danse, il y a toujours eu des fêtes, mais elles prennent toujours une valeur particulière par rapport au monde qui les entoure. Donc aujourd'hui, il y a un besoin, il y a un désir de communion, de rassemblement. Il y a beaucoup de jeunes collectifs qui organisent des fêtes autour de Paris et ailleurs. Un besoin face à cette atmosphère de collapsologie un peu ambiante, face à ce défaitisme, face aussi à la manière dont nos libertés de mœurs, d'action, de comportement sont attaquées à travers les réseaux sociaux ou à travers les discours de certains politiciens. Il y a un désir comme ça de rassemblement dont la musique devient la bande-son.
Vous diriez, Vanessa Wagner, qu'elle est à la fois le fruit de la révolution numérique, c'est la musique où l'homme et la machine communient, mais qu'elle est aussi une forme de résistance au monde tout numérique ou aseptisé vers lequel on va.
Oui, mais là, c'est vrai que la musique électronique, elle a encore une fois mille facettes et qu'elle peut aller du très festif au aussi très très sombre. Enfin, dans tout le courant ambiant, on a justement aussi le reflet de notre monde qui va vers une musique quand même qui parle plutôt des tréfonds de...
Elle peut être très ténébreuse, ouais, mais elle peut être très hédoniste aussi, effectivement. Mais il y a quelque chose de très fort qui se passe en ce moment ou depuis quelques courtes années à travers toutes ces fêtes avec un grand désir de liberté de mœurs et de réunion et d'être à l'abri aussi des discriminations.
Oui, parce qu'elle est partie de mouvements interlopes, la communauté gay, notamment, pour ensuite plus largement essaimer et se diffuser, Jean-Yves Leloup.
Oui, absolument. Elle s'est mondialisée, elle est présente dans toutes les strates de la société, ouais, différentes catégories socio-professionnelles, différentes générations. Mais c'est vrai que plus récemment, la culture gay a repris aussi une sorte de force de militantisme incarnée à travers la musique. Elle avait perdu un petit peu ce côté-là ces dernières années. Et là, il y a à la fois, vous avez de jeunes gens hétérosexuels bien intégrés dans la société qui vont dans les du festival et qui dansent au son de cette musique. Et puis vous avez aussi des soirées qui ont un aspect beaucoup plus militant et assez résistant, avec un vrai des sortes de mots d'ordre un peu politiques qui passent à travers aussi la fête et l'hédonisme.
Et il y a des correspondances évidentes avec les diverses expressions artistiques. Il y a notamment de très beaux moments autour de la danse contemporaine et de la musique électro. Vous ressentez finalement que ce courant est celui d'un courant culturel global qu'on retrouve peut-être aussi dans les séries, dans les films. Vanessa Wagner.
Alors, c'est vrai que cette musique-là a presque maintenant investi. D'ailleurs, à un moment, elle a été tellement populaire, voire popularisée, qu'elle en a un tout petit peu perdu son âme. On revient, comme le dit Jean-Yves, à quelque chose de plus politisé, de plus en underground, qui est quand même le terreau de ce courant musical. Moi, j'essaie dans ma carrière de musicienne aujourd'hui de tisser quelques passerelles.
Je vous propose, on va écouter un extrait justement de votre dernier album qui est sorti hier, Inland. C'est signé Philippe Glass et c'est vous qui êtes au piano. Il y aura une petite surprise à la fin. Écoutez. Vanessa Wagner, on a pris le soin d'enchaîner Philippe Glass, votre magnifique doigté, à celui de l'allemand Paul Kalkbrenner, grand DJ, grand créateur de musique électronique à Berlin, pour montrer qu'il y a une forme de continuité dans cette histoire.
Oui, évidemment, le courant minimaliste que j'adore et que je joue de plus en plus aujourd'hui a, je pense, beaucoup inspiré les musiciens électro d'aujourd'hui. C'est évident que Philippe Glass, Steve Reich, Arvo Pärt sont des grands, grands inspirateurs, et avant eux, Eric Satie, de la musique répétitive.
Et ça, on pourra l'écouter dans votre dernier album Inland. Et puis, Jean-Yves Leloup, allons nous plonger dans cet univers, dans ces mythologies, dans cet imaginaire que vous avez recréé à la Villette.
Oui, l'expo électro de Kraftwerk à Daft Punk, avec une belle installation robotique de Daft Punk d'ailleurs. Et puis Jean-Michel
Magnifique
Jarre
photo
aussi.
Également, il faut le signaler, d'Andreas Gursky, un des photographes contemporains les plus prisés sur le marché de l'art.
Et Jean-Michel Jarre, Gursky effectivement, plein de jeunes photographes aussi qui ont photographié les nuits tirer le portrait des différentes jeunesses qui se succèdent sur les dance floors, et ça se passe jusqu'au 11 août à la Philharmonie de Paris.
On verra l'évolution des instruments, comment on est passé des instruments classiques à la machine. On voit aussi, on peut aller en concert avec Daft Punk aussi, avec un casque.
Pas besoin d'être un spécialiste pour voir cette exposition. On l'a voulu, elle a différentes dimensions. À la fois les fans pourront s'y reconnaître, et puis les gens un tant soit peu curieux des cultures actuelles pourront en comprendre un peu mieux les clés, et puis aussi en prendre un petit peu plein les oreilles et les yeux.
Et le corps même, c'est très sensuel. Merci à vous, Jean-Yves Leloup, merci à vous,
merci
Vanessa Wagner. Spéciale dédicace à Sophie Malier qui a réalisé ce magnifique mixage, et à Romain Leborne qui a transformé la régie en dance floor. Un grand merci à vous, Justine, de m'avoir accompagné.
Merci, François.
Et puis un message pour Marine Aprouzès, la dispensable programmatrice. Le 1er mai, c'est pas seulement la fête du travail. Mais je vous en dis pas plus parce qu'il faut pas les fêter avant. Dimanche prochain, vous retrouvez Patrick Cohen. Un petit message pour Dominique Souchier qui a incarné ce rendez-vous depuis 1996 à l'antenne et qui continue à nous guider et à nous inspirer.
Retrouvez C'est arrivé demain tous les dimanches de 9h à 10h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.